Je propose de prier simplement avant de commencer. Merci Père pour ta parole, pour la Bible, pour toutes ces pages, avec cette histoire, avec un grand H que tu as créé. Merci parce que ça nous parle, que tu nous as transmis ça pour qu'on apprenne à te connaître, qu'on apprenne à nous connaître nous. Alors apprends-nous sur toi, sur nous et sur notre relation avec toi, que ça puisse avoir une trace dans notre quotidien. Amen. C'était il y a très très longtemps, dans un pays très très loin, avec des collines vertes au bord de la mer, la Palestine, au Proche-Orient. À cette époque, il y avait plusieurs civilisations. Il y avait la Mésopotamie, vous vous rappelez peut-être de vos cours de quoi, 6e, le croissant fertile, Mésopotamie, Palestine, Égypte, avec à chaque fois un peu des civilisations différentes, mais qui avaient des croyances. Et dans ces croyances, il y avait plusieurs dieux, à chaque fois une espèce de mythologie assez complexe. Et derrière, en fond de cette mythologie, il y avait un dieu un peu inaccessible, le dieu créateur, le dieu juge, que ce soit chez les Sumériens, chez les Égyptiens, c'est à peu près le même principe, ou même dans cette petite Palestine le long de la mer, sur ces fameuses collines. Plein de petites tribus, mais toujours une espèce de Dieu lointain, qu'on ne peut pas approcher, qui a créé les choses, le monde. Dans ce pays, depuis à peu près une génération, il y a un peuple qui était nomade, qui est arrivé, qui s'est installé dans ce pays. Ça fait à peu près une génération, donc ils ont pris leur place dans les villes de la région. Et à la tête de ce peuple, Joshua, fils de Noun, un vieillard, qui les dépasse tous d'une génération, au moins. Vous imaginez? Ce peuple, avant, il était nomade. Il a vadrouillé dans le désert pendant des dizaines d'années. Et avant ça, les plus anciens étaient encore enfants, s'en rappellent, ils étaient en Égypte. C'était dur. Ils étaient traités comme des esclaves. Et puis, il y a eu 10 plaies, ces fameux 10 miracles. Aujourd'hui, ils sont dans ce pays. Ils ont pris possession de ce pays, le fameux pays promis. Ils ont mis du temps, ils ont attendu, ils y sont. Joshua, fils de Noun, est à la fin de sa vie. Alors, il convoque tout le peuple, un instant très très solennel, pour leur faire un discours. Voilà, maintenant vous y êtes, c'est parti, on y va. Je propose de lire avec vous, un peu survoler le dernier chapitre donc du livre de Josué, versets 1 à 28, Josué 24, versets 1 à 28. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les responsables. Il convoqua les responsables, les chefs, les juges et les officiers d'Israël, et ils se placèrent devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a bien longtemps vos ancêtres, en particulier Terah, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir votre ancêtre Abraham d'au-delà de l'Euphrate. Je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan et j'ai multiplié ses descendants. Je lui ai donné pour fils Isaac, auquel j'ai donné Jacob et Ésaü. À ce dernier, j'ai attribué en propriété la région montagneuse de Séir, et Jacob et ses fils se sont rendus en Égypte. » Je mets l'accent sur le « j'ai », c'est Dieu qui parle, qui raconte, c'est moi l'acteur de cette histoire. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron, j'ai infligé à l'Égypte divers fléaux par tout ce que j'ai fait au milieu d'elle, après quoi je vous en ai fait sortir. Après que j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte, ils sont arrivés à la mer des roseaux, mais les Égyptiens les ont poursuivis jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors ils m'ont imploré et j'ai interposé un écran de ténèbres entre votre peuple et les Égyptiens. Puis l'eau est revenue sur ces derniers, il les a submergés, la mer Rouge. Vous avez vu de vos yeux ce que j'ai fait aux Égyptiens. Après cela, vous êtes restés pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai fait pénétrer dans le pays des Amoréens établi à l'est du Jourdain. Ils vous ont combattu, mais je vous ai donné la victoire sur eux. Et vous avez pris possession de leur pays, car je les ai détruits devant vous. Le roi de Moab, Balak, fils de Tzippor, a également entrepris de faire la guerre à votre peuple. Il a appelé Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui a dû au contraire vous bénir, et je vous ai délivré de lui. Vous avez traversé le Jourdain, et vous êtes arrivé à Jéricho. Les habitants de cette ville ont combattu contre vous, et je vous ai donné la victoire sur eux. De même que sur les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés devant vous, comme je l'avais fait pour les deux rois des Amoréens. Ainsi, ce ne sont ni vos épées ni vos arcs qui vous ont donné la victoire. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties et où vous êtes installés, des vignobles et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. J'ai pas beaucoup de commentaires. Là, ce que Josué dit, votre histoire, c'est Dieu. Votre identité, c'est Dieu. Votre bonheur, c'est Dieu. Je continue la lecture. Ça marche plus. Il n'y a pas du bon. Voilà. On continue la lecture, versets 14-15. « Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Et rendez un culte à l'Éternel seulement. » S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous servirons l'Éternel. Choisissez Dieu. Je continue la lecture, versets 16 à 18. Le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres, d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons servir l'Éternel, car il est notre Dieu. » La réponse du peuple, voilà. C'est Dieu qui nous a emmenés là. C'est à lui que nous devons ça. Alors oui, ok, nous servirons ce Dieu-là. Nous choisissons Dieu. Versets 19 à 21. Alors Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour servir des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant du bien, il vous consumera. » « Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons servir. » Vous ne serez pas capables. Vous le savez, et vous savez ce que ça coûtera. Quand même, on fonce. On y reviendra. Vous ne pourrez pas servir Dieu, on le veut. Je poursuis la lecture. Je Josué reprit, « Vous êtes vous-même témoin contre vous que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour le servir. Hein, » ils étaient libres. Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers, qui se trouvent encore au milieu de vous, et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. » Alors, prenez position. Ok. Dernier passage. Versets 25 à 28. Ce jour-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna une loi et des décrets. Josué consigna ces choses par écrit dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la dressa là sous le chêne qui se trouvait dans l'enceinte du sanctuaire de l'Éternel. Et il dit à tout le peuple, « Cette pierre servira de témoin entre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a adressées. Oui, elle servira de témoin contre vous pour que vous ne reniez pas votre Dieu. » Puis Josué congédia le peuple pour que chacun se rende dans son patrimoine. Voilà, Josué qui roule sa pierre en dessous de l'arbre. Cet engagement, cette pierre, ça devait être solennel. Le peuple savait à quoi il s'engageait. Hein. Josué a choisi une pierre pour... parce que c'est pas comme du bois, ça pourrit pas. Hein. C'est censé durer des siècles, des millénaires. Ça... me rappelle mon mariage. On s'engage. Lors d'un mariage, on s'engage à aimer. On sait très bien qu'on n'aime pas parfaitement, mais on s'engage quand même. C'est ça l'alliance. Cette alliance qui est dressée là. Ils savaient très bien qu'ils seraient incompétents, ils sont quand même engagés. Dans ce texte, hein, je ne sais pas, comme moi, vous êtes peut-être accrochés sur ce verset. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival, il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Est-ce que vous aimez ce genre de verset? C'est un peu dur, on n'a pas l'habitude, hein, mais c'est écrit dans notre Bible. C'est pas un rajout. Souvent, quand on lit la Bible, on a plutôt tendance à lire le Nouveau Testament. Quand on va fouiller dans l'Ancien Testament, c'est peut-être les psaumes, ou les proverbes, ou voilà, certaines parties qui correspondent à notre a priori sur la Bible. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, peut-être de longue date ici. Et on connaît Christ, la croix, l'évangile, on en a parlé tout à l'heure, c'est magnifique. Et on oublie parfois ces textes qui sont durs. Ce Dieu de l'Ancien Testament qui paraît un peu différent que le Dieu du Nouveau Testament. Hein. Je dis bien paraît, on va en parler. Dans le texte ici, dans cette histoire, le peuple est enfin arrivé dans ce pays. L'instant est solennel. Ils ont attendu tout ce temps-là pour construire l'histoire d'un peuple en relation avec le Dieu créateur. Ce Dieu-là, que tous les autres pays autour connaissent, mais de loin, ce Dieu-là est leur Dieu. Ils ont le privilège d'avoir une relation avec ce Dieu-là, qui leur a promis un avenir plein de bénédictions, hein, la promesse à Abraham, répété à ses fils, petits-fils. Ils ont ça dans leur culture, ils le savent, ils le transmettent le soir au coin du feu de génération en génération. Mais là, Josué leur dit, vous savez très bien que vous ne serez pas capables. Et ils connaissent l'histoire, ils savent que le peuple, il s'est planté, et s'est encore planté, et encore planté. Qu'il y a d'autres dieux dans les tentes, d'autres idoles, dans le privé des familles. Si Josué demande de s'en débarrasser, c'est qu'il y en a. il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Second traduisait, il ne pardonnera pas votre transgression et votre péché. Ce n'est pas le seul texte dans l'Ancien Testament où on a l'impression qu'il y a un point final au péché de l'être humain. Il n'y a pas de solution. Naturellement, l'issue du péché, c'est la mort. C'est la fin. Point final. À ce moment, je me mets un peu dans la peau des Hébreux qui sont tous rassemblés en peuple, ils doivent être excités, c'est le début de leur vie sédentaire, agricole, voilà. Dans cette relation avec ce Dieu, puissant, formidable. Ils sont prêts, on va commencer, mais en fait, non, vous ne serez pas capables. Fin de l'hiver 1944, quelque part au-dessus de Berlin. C'est un bombardier B-17, une grosse forteresse volante. Il y en avait des centaines qui étaient en train d'approcher Berlin. Ils avaient pour objectif d'affaiblir la puissance allemande. Donc ils devaient larguer des bombes. Donc c'est un avion très gros avec... plein de choses dedans. Vous avez des postes de mitrailleuses devant, derrière, pour se protéger des chasseurs allemands. Et dans la mitrailleuse de queue d'un de ces bombardiers se trouve le sergent Alkemade. C'est une de ses premières missions. Il est là, il fait son travail. Il largue leur bombe sur la cible. Et puis, jusque-là, tout va bien. Sur le retour, par contre, les chasseurs allemands arrivent. Bon, mais ça ne manque pas. Il touche l'avion. Le sergent Alkemade, il fait ce qu'il peut pour sauver la donne, mais il n'y arrive pas. Il y a le commandant de bord qui fait un appel sur la radio. On est touché, on prend feu. Sauf qu'il peut. OK. Donc là, ce qu'ils font en général, ils sautent avec leur parachute et ils espèrent que tout va bien se passer. Sauf que... dans ce petit poste de mitrailleuse de queue, c'est tellement petit que leur parachute, ils l'accrochent dans la queue de l'avion. Il a qu'à se lever, ouvrir la porte, aller chercher le parachute. Il ouvre la porte, les flammes qui arrivent sur lui. Et là-bas, au fond, le parachute en feu. Mince. Plus de parachute. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a un choix simple, en fait. Soit... rester là et puis mourir à petit feu, soit ouvrir les coutils et sauter sans parachute. Peut-être que le plus sympa c'est de faire un petit saut en chute libre, tant qu'à faire. Une histoire vraie, hein. Donc il saute. Et pourquoi je raconte cette histoire ? Imprimez-vous ce qui se passe dans sa tête à ce moment, pauvre sergent Alkemade. Il est en train de chuter, vous avez cette adrénaline vous tombez de plus en plus vite et vous essayez de vous repasser le film de votre vie. Ça y est, c'est fini, ça va finir tout de suite, maintenant, là. Il repense à sa fiancée qui est restée au pays, qui voit son sourire, et juste quelques secondes, c'est fini, point final. C'est juste normal, c'est logique. Il tombe. Ce peuple, à ce moment, devait avoir un sentiment un peu équivalent. Point final. Vous n'y arriverez pas. Et le salaire du péché, c'est la mort, vous le connaissez. Pas d'issue. On revient sur notre sergent. Il a sauté à 4000, un peu plus de 4000 mètres. Il fait très très froid, il y a peu d'air, donc manque d'oxygène et le froid et l'adrénaline, en fait, il s'évanouit en tombant. Et puis il se réveille. Il a froid. Il a un peu mal partout. Mais il bouge un bras, il bouge l'autre bras, ça va. Ah, il a un peu mal au genou. Bon, ben voilà, il a un peu mal au genou, mais l'autre, ça va. Il voit la lune dehors, et puis de la neige, des sapins. Il est tombé dans la forêt noire, dans les grands sapins, avec de la neige. Il est toujours vivant. Une exception. Dans la Bible, je pense que c'est bon, surtout pour des chrétiens, de se rappeler que la grâce est une exception. La grâce est une grâce, par définition. Dans l'histoire de ce peuple, après, hein, Jésus est mort, les années ont passé, et vous la connaissez certainement, hein, mais je vais vous la résumer simplement. Il s'est passé un millénaire, voilà, l'histoire d'un peuple qui a passé de l'âge du bronze à l'âge du fer, qui est passé de l'anarchie à la monarchie. Un millénaire d'une histoire entre un peuple et son Dieu. Un cycle perpétuel d'obéissance, rejet, désobéissance, regret, obéissance, rejet, désobéissance, regret, pendant 1000 ans. Effectivement, ce peuple n'était pas capable. Vers la fin de ce millénaire, il y a eu de plus en plus des hommes qu'on appelle les prophètes qui avaient pour mission de parler de la part de ce Dieu, de transmettre un message de la part de Dieu. Et donc beaucoup de textes dans la Bible, hein, les prophètes, vous connaissez certainement, des grands prophètes, des petits prophètes, des grands livres, des petits livres, mais qui ont tous à peu près ce même discours de fond qui est celui du constat, du péché, de la faillite. Vous ne serez pas capable, ben effectivement vous n'êtes pas capable. Vous êtes engagé, mais vous avez tout raté. Donc, voici le jugement, voici le jugement, le jugement, le jugement. Souvent, c'est des textes lourds, hein, les prophètes. Ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est lourd, hein, c'est pesant. Mais vous avez dans ces livres des pépites où, d'une phrase à l'autre, d'un verset à l'autre, sans transition, vous avez le jugement et tout à coup une exception, la grâce. Un exemple. Ézéchiel 16, versets 59 à 60. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Sans transition. Vous pouvez lire Ézéchiel 16, c'est magnifique. Enfin, magnifique. Après ce millénaire, il y a eu donc du coup le jugement, la déportation, mais aussi le rétablissement avec la promesse d'un Messie qui allait apporter cette ère de bonheur qui était promise, cette solution qui était promise. Et bien, le Messie va l'apporter. Et un jour, Jésus arrive. Il commence à meuter les foules, à faire parler de lui. Et puis, les gens le reconnaissent comme étant le Messie. Ce Messie qui apporte la solution. Et il vient mourir sur la croix. Au début, personne ne comprend pourquoi est-ce qu'il meurt sur la croix. Et puis petit à petit, les disciples y comprennent. Eh bien, il devait mourir pour porter le péché de l'humanité, la faute de l'humanité. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, hein, on a vu tout à l'heure. On a lu ce texte. Et puis, ses disciples, ensuite, ont transmis cette idée, ils ont verbalisé, ils l'ont communiqué. Tous les disciples, et puis l'apôtre Paul. Et là, dans ces textes du Nouveau Testament, souvent on rencontre aussi ce principe où vous avez une partie, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, littéralement sans cause. Hein, il n'y a pas de transition. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous avez vu le titre, peut-être que tout à l'heure, il vous a un peu choqué. Choisir Dieu est possible, le servir est impossible. Vraiment ? Oui. Mais il y a une exception. Et c'est une exception. Le servir est possible. Le moyen de lui être fidèle à Dieu ne se trouve juste pas dans nous, naturellement. Nous, en fait, on est capable, juste comme le sergent, de tomber. Il ne peut juste rien faire. On a besoin d'une exception qui ne dépend pas de nous. On peut se poser la question, quand on lit ce chapitre dans Josué, pourquoi est-ce que le peuple, il choisit quand même, quoi. Franchement, ils sont bêtes ou quoi? Bah, vous engagez qu'à moitié, vous mettez une clause dans le contrat en disant, bah oui, on s'engage, par contre, Dieu, tu connais très bien, on est incompétent, et du coup, voilà, tu nous excuseras, mais bon, ça marche pas comme ça. Dieu est saint. Soit on s'engage à fond, soit on s'engage pas. Et le peuple s'est engagé. Pourquoi est-ce qu'il s'est engagé? C'est bien de se poser cette question, et en se posant cette question, on découvre quelque chose de magnifique, je trouve, dans ce passage. Le peuple avait connaissance de la promesse. Ils savaient que Dieu allait apporter une solution. Ils ne savaient pas encore trop comment. C'était flou pour eux. Mais ils sont engagés quand même. C'est intéressant aussi de voir ce que Josué a dit aussi. Hein. Il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous ne serez pas capables. » Est-ce que Josué se plaçait au-dessus des autres? Est-ce que, honnêtement, le vieillard qui devait avoir au moins 30-40 ans de plus que le plus vieux d'entre eux, il savait très bien l'état de son cœur. Il savait très bien que lui non plus ne serait pas capable. Josué, lui, qui, vous savez, quand Moïse allait dans la tente de la rencontre, il ressortait avec le visage lumineux, il devait se le cacher parce qu'il était plein de la présence de Dieu. Lui, Josué, il restait tout le temps dans la tente de la rencontre. Il connaissait ce Dieu. Donc, il savait que ce Dieu était un Dieu d'exception, un Dieu de grâce. Josué s'est engagé par la foi dans sa grâce. Et le peuple aussi s'est engagé quelque part par la foi que Dieu avait une solution, qu'il pourrait pardonner. Par la foi dans sa grâce, choisissons de servir Dieu. S'il y a quelque chose à retenir ce matin, c'est cette belle phrase, peut-être, d'un dimanche matin, qui est peut-être un peu floue. On va juste s'arrêter pour réfléchir. Qu'est-ce que ça peut bien dire de concret dans nos vies? Par la foi dans sa grâce, choisissons de servir Dieu. J'ai eu parfois l'occasion, le privilège d'accompagner des personnes qui avaient des réflexions dans leur foi, dans leur croyance, dans les choses de Dieu. Et alors, il y a toujours des parcours de vie différents, bien sûr, toujours des blocages différents, mais parfois, souvent, il y a de l'intérêt pour les choses de Dieu, donc il y a un cheminement. Et c'est intéressant, mais souvent, quasi à chaque fois, mais souvent, il y a un blocage. En fait, la personne veut choisir le camp de Dieu, mais se sent incapable. Incapable. Pour quelqu'un qui est chrétien et qui vit au jour le jour la grâce, on a oublié ça. Mais souvent, on rencontre ce blocage. Comme si on ne méritait pas, en fait, ce camp de Dieu. Et comme ce sergent qui tombe, il a sauté, il a choisi de sauter, il tombe. Il y a une exception pour lui. Pour nous, être humains, nous pouvons choisir Dieu. Et nous savons qu'il y a une exception qui nous pardonnera. Cette exception, c'est Jésus-Christ, la croix, le prix qu'il a payé pour nous. Un autre exemple, j'ai travaillé pendant deux ans et demi avec les étudiants, foyer évangélique universitaire dans une ville de France. J'étais à... Pendant, j'ai fait une année d'institut théologique à Genève, l'IBG, et c'est à cet endroit-là qu'ils m'ont contacté. Est-ce que tu ne voudrais pas t'occuper du lancement d'un feu ? Voilà. Alors, j'étais jeune, hein, j'étais tout frais, j'étais motivé, tout, c'est trop bien, on va pouvoir parler de Dieu à des étudiants et construire quelque chose de neuf. Ça me faisait peur, par contre. Hein, j'ai pas d'expérience, quoi. Qu'est-ce que ça va donner ? Et pendant cette année de préparation, eh ben, je suis allé voir donc un foyer évangélique universitaire. C'est un outil des églises locales pour les églises locales, donc c'est construit autour d'églises locales. Et j'ai fait quelques visites, j'ai discuté un peu avec les responsables des églises, et je me rappelle très bien d'une phrase d'un de ces responsables. Le contexte dans cette ville entre les différentes églises était compliqué. C'est pas toujours rose hein, entre les églises, il y a des histoires qui traînent, des petites tensions entre les églises et pourtant le feu avait vocation de créer quelque chose avec plusieurs églises, de faire un travail commun, et c'était nouveau dans cette ville et un de ses responsables m'a dit une phrase: c'est pas un stagiaire qui changera les choses. Je pense qu'il était plein de bonne volonté, mais il m'a dit ça, j'avais déjà moi, je me sentais pas du tout capable. Et il m'a dit ça, j'ai fait... Oh. Ça m'a fait cogiter. Et franchement, quand je lis ce texte de Josué, que je vois où Josué leur dit « Mais vous ne serez pas capables. » Et ils s'engagent quand même. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu à ce moment-là. Choisir quand même, par la foi dans sa grâce. Je ne me suis pas fait une raison en disant « Mais si, j'y arriverai parce que je vais apprendre, ou parce que je vais être compétent, ou etc. » Au contraire, j'en ai fait des erreurs. Mais le Seigneur a tellement bien tourné les choses en bien. Vous voyez, c'est cette idée-là, c'est cette application concrète qu'on peut voir dans plein de choses de nos vies. Dans notre mariage, je parlais du mariage tout à l'heure, hein, on a peut-être beaucoup entre nous mariés qui avons roulé cette pierre en dessous du chêne. On s'est engagé, mais on sait très bien aimer véritablement, c'est pas possible pour un être humain. Merci Seigneur pour ta grâce, qui est une exception quotidienne. Une responsabilité dans l'Église, c'est pareil, ça fait un peu écho à ce que je racontais tout à l'heure. On s'engage pour une responsabilité, mais on sait très bien qu'en fait on n'y arrivera pas. Merci Seigneur pour ta grâce. Un projet d'Église, ou notre témoignage personnel, ou en fait simplement commencer une journée, qu'elle soit tout entière à la gloire de Dieu, juste ça, parfois c'est un challenge, on se dit ben, on n'y arrivera pas. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vais finir en revenant sur notre sergent. Notre sergent qui est là, le miraculé. Il a fait une chute de 4600 mètres. Il est toujours vivant. Sans parachute. Histoire vraie, hein ? Il s'est fait mal au genou, il boite un peu, mais bon, il se lève, et il a froid, tiens, il a encore des cigarettes dans la poche, il s'en allume une, il se tient un peu chaud comme ça, et puis bon, bah, il est un peu paumé dans la nature, il essaie de trouver quelqu'un pour lui venir en aide, quoi, hein, l'histoire continue. Et du coup, il appelle à l'aide, et voilà, il va trouver les gens, le pauvre, il était juste pas très concentré, il venait de vivre un truc incroyable, mais c'est quand même un soldat britannique, en plein cœur de l'Allemagne nazie. Alors bon, quand vous avez un aviateur qui saute, il a un parachute, il se fait prendre prisonnier, et puis en général, c'est des officiers, tout ça, ils sont dans les camps de prisonniers. Bon, c'est pas 5 étoiles, mais ils sont quand même bien traités. Mais ils ont leur parachute, comprenez ? Lui, il n'avait pas de parachute. Un soldat britannique dans l'Allemagne nazie, c'est un espion. Donc il se fait arrêter par la Gestapo. Pour être fusillé. Pourquoi je raconte ça ? Rassurez-vous, hein, notre sergent, il a vécu jusque dans les années 80 et s'en est tiré. Mais pourquoi je raconte ça ? C'est parce qu'il a vécu une exception. Il a encore besoin d'une exception. Comme nous, chrétiens, la grâce est une exception quotidienne. Amen.